Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette édition du journal. Voici les informations clés de ce jour. Inondation de la rivière Ndjili à Kinshasa suite à des fortes pluies. La circulation reste bloquée entre Tchangou et le centre-ville. Plusieurs familles ont passé la nuit dehors depuis hier. Le gouverneur du Maïndombe en mission de paix, unité et cohabitation entre les communautés locales au cœur de sa tournée dans les territoires de Bolobo et de Yumbi. Il a fermement condamné les tensions entre les Tende, les Teke et les Nounou, rappelant que sans paix, il n'y a pas de développement. Madame Solange Riziki, une vie dédiée à l'encadrement des orphelins victimes des conflits armés en RDC. En 2020, elle a fondé l'orphelinat Nid d'Espoir à Kinshasa, qui accueille aujourd'hui une vingtaine d'enfants venus de l'Est du pays. Dans ce journal, elle partage son parcours inspirant et les défis rencontrés dans l'encadrement de ses enfants. Elle est l'invitée de ce journal. Gisèle Cage à la présentation de ce journal. Débordement de la rivière Ndjili à Kinshasa. Depuis hier jusqu'à présent, pas de circulation entre Tchangou et le centre-ville. Plusieurs familles ont passé la nuit dans des véhicules sur le pont Ndjili sans avoir l'espoir de sortir aujourd'hui du calvaire. Le détail avec Askanzibia Tayoro.
Spectacle désolant entre le saut des moutons des deux bonhommes et l'entrée abattoir. Les débordements de la rivière Ndjili a bloqué complètement la circulation à ce niveau. C'est depuis hier soir que de centaines de véhicules sont bloqués sur le pont Ndjili. Les Kinoises et les Kinois qui ne peuvent plus prendre le véhicule sont obligés d'affronter les eaux qui se sont installées comme un fleuve sur le boulevard Lumumba. Certaines personnes payent 10 000 francs congolais pour être transporté au dos afin de traverser de l'un ou de l'autre côté du pont Ndjili. D'autres sont des habitants du quartier Salongo qui sont aussi bloqués. Ils ne savent plus rejoindre leurs habitations qui sont inondées. À ce stade, aucune intervention de sauvetage n'est perceptible. Plusieurs familles se lamentent et craignent de passer encore une nuit dans le véhicule. Par ailleurs, jusque-là, le niveau des eaux ne baisse pas pour donner l'espoir à la reprise normale des circulations sur le pont Ndjili.
Comme l'a dit notre reporter Askanzibia Tayoro, sur le terrain, le débordement de la rivière Ndjili sur le boulevard Lumumba au niveau du pont Ndjili a contraint plusieurs personnes à passer la nuit à la Belle Étoile. C'est notamment le cas d'un fonctionnaire de l'ambassade des États-Unis de retour de la commune de Massina. Il n'a pas pu traverser le pont Ndjili totalement inondé. En conséquence, il a passé la nuit sur place dans son véhicule. Les inondations ont également causé des dégâts importants, submergeant des habitations, endommageant des infrastructures et bloquant la circulation. Écoutons son témoignage recueilli ce matin par Jacques-Yves Molima.
Bon, je t'appelle du pont Ndjili où j'ai passé la nuit. Moi, je suis arrivé là vers 21h. Je venais de prendre ma mère chez le grand frère Massina. Je l'amène vers Lingwala. J'ai cru que c'était un embouteillage normal au niveau du pont Ndjili ici, au niveau du quartier des Bonhommes. Mais en fait, en plus de l'embouteillage habituel, il y a eu inondation. Ce qui fait que les gens qui venaient de Limété, par exemple, ne pouvaient plus passer. Ils ont pris le sens inverse de nous qui venions de Tchangou. Et donc, on est bloqué d'abord par des véhicules et puis par les inondations. Donc, nous sommes là. J'ai vu des familles qui habitent les quartiers inondés de des bonhommes. J'ai vu une famille dormir à la Belle Étoile avec des bébés et tout ça. Ils ont perdu beaucoup de biens que j'ai vus là. Ils ont essayé de sauver les quelques biens qu'ils pouvaient.
En conséquence de ces intempéries, au moins 14 communes de Kinshasa sont privées d'eau potable, a annoncé le gouverneur de la ville, Daniel Bumba. Cette pénurie résulte notamment des dommages subis par la station des captages d'eau de la rivière Ndjili, affectée par la crue. Cependant, il affirme que des travaux sont en cours pour garantir à la population un retour à la normale et met en garde contre les constructions en zone interdite. Écoutons Daniel Bumba dans cet extrait choisi par Jacques-Yves Molima.
Nous tenons aussi à rassurer nos populations que les travaux s'effectuent aussi pour essayer de rétablir la situation de l'eau, parce que les infrastructures aussi liées à l'eau ont été touchées. D'ici 2 à 3 jours, la situation sera rétablie. Il y a aussi des préventions qui ont été mises en place pour épargner les ouvrages liés à la distribution d'électricité via la SNEL. Des équipes sont à pied d'œuvre avec l'OVD pour essayer de maîtriser la situation. Quant à la ville de Kinshasa, sur sa voirie, les travaux de curage sont annoncés pour justement maîtriser les érosions liées à cela. Nous profitons de l'occasion aussi pour rappeler à nos populations qu'il est interdit de construire à des zones non à édificandes. Donc nous vous conseillons de commencer à vous organiser. Parce que le jour qui viendra, c'est l'État qui va se prendre en charge pour justement vous déloger, pour libérer des espaces non édificandes.
Quittons Kinshasa pour Beni au Nord Kivu. Dans les territoires de Beni, plus de 1000 ménages se trouvent sans assistance humanitaire dans la localité de Baswaga Lubena, située à environ 50 km à l'ouest de la ville de Beni. Ces personnes ont fui les attaques de rebelles des ADF dans les territoires de Lubero au Nord Kivu et de Mambasa dans la province de l'Ituri. Tous vivent dans des familles d'accueil dépourvues de moyens. La société civile locale qui alerte sur la situation de ces personnes vulnérables demande au gouvernement de restaurer la paix dans la région afin que les déplacés puissent regagner leur milieu d'origine. Moussoubao Aliamini, président de la société civile dans le Baswaga Lubena, nous en parle.
Estimant en termes de ménages, je peux dire au-delà de 1000 ménages. Et jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'assistance aux déplacés de notre zone. Et ça fait presque 2-3 ans, il n'y a pas d'assistance dans notre zone côté déplacés. Parce que ce n'est pas seulement les déplacés qui sont venus de Mabalako, les déplacés d'Ingazi. Il y a même des déplacés qui sont venus d'ailleurs, dans les territoires de Lubero, qui sont dans notre zone. Là, le groupement Baswa Madioué, précisément la localité Baswa Lubena. Présentement, il n'y a pas d'assistance, il y a même insuffisance des médicaments dans les centres de santé. Et j'espère avec le management que nous sommes en train de faire avec la zone de santé, les médecins chefs de zone sont en train de se démener pour que les activités reviennent dans ces postes, dans les centres de santé qui étaient touchés aussi à cause des atrocités de ces deux groupes armés.
Ce journal se poursuit sur Radio Okapi. Le gouverneur de la province du Maïndombe, les Bonkoso Kevani, en tournée dans les territoires de Bolobo et de Yumbi, prêche la paix et l'unité à la population lors des meetings qu'il a tenus dans les chefs-lieux de chacun de ces territoires. Il a condamné les tensions observées entre les différents peuples vivant dans cette région, à savoir les Tende, les Teke et les Nounou. Vendredi dernier, il était à Yumbi où il a expliqué que son la paix, il n'y aura pas de développement. À cette occasion, l'autorité provinciale a également déploré la tracasserie policière et a promis de supprimer toutes les barrières illégales. Irène Bomaluzolo.
Face à une foule nombreuse réunie à la place rond-point Likolo à Yumbi, Lebonkoso Kevani, gouverneur du Maïndombe, a sensibilisé la population sur la nécessité de cultiver la paix qui, selon lui, est le gage de tout développement. Ce qui fait fuir les investisseurs, c'est l'insécurité. La paix est très capitale pour le développement. C'est pourquoi nous ne voulons pas qu'il y ait des foyers de tension dans notre province. Dieu savait que dans les territoires de Yumbi, il y aura des Tende et des Nounou. Nous voulons donc prôner la paix et l'unité dans nos communautés. En outre, il promet de démanteler toutes les barrières illégalement érigées dans ces territoires afin de combattre la tracasserie sur toutes ses formes. Nous ne voulons pas de tracasserie policière. J'ai appris qu'il y a des barrières ici. Le VPM ministre de l'Intérieur avait demandé au gouverneur des provinces d'identifier toutes les barrières qui causent les tracasseries afin de les supprimer. Le VPM Chaban y veut que la sécurité puisse régner dans notre province du Maïndombe. Avant d'arriver à Yumbi, le gouverneur du Maïndombe était à Bolobo où il a lancé les mêmes messages de paix à la population à la suite des vives tensions qui y ont régné récemment entre les peuples Teke et Nounou, occasionnant mort d'hommes et incendie des maisons. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Il est crucial que le gouvernement d'Union nationale, envisagé par le président Félix Tshisekedi, crée un environnement favorable à la collaboration avec l'opposition afin de parvenir à l'unité et à la cohabitation nationale en RDC. Cet appel a été lancé par le député de l'opposition, Gratien Irantian, élu sur la liste du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Il s'est exprimé devant les médias après son entretien avec Eberhard Kolongele, consultant désigné par Félix Tshisekedi, accompagné d'autres cadres et personnalités politiques. Il a déclaré que la guerre qui ravage le Deux Kivu et l'Ituri nécessite la contribution de tous pour mettre fin aux tueries des Congolais. Le député Gratien Iranchan s'exprime au micro de Billy Yvan Lutumba.
Nous sommes face à une situation qui nécessite pratiquement l'unité et la cohésion nationale. En tant que député national de l'opposition, élisir la liste des Ensemble pour la République avec les différentes personnalités politiques de l'opposition qui sont avec moi, nous avons pensé qu'il est important de pouvoir joindre nos efforts pour que le pays retrouve la paix face à tous ces massacres que nous sommes en train de connaître, face à l'intégrité du territoire, face à tous ces abus que nous avons connus avec l'agression étrangère du Rwanda dans notre pays. Nous sommes en train de laisser nos égos de côté pour nous joindre au même intérêt de la République afin que la guerre cesse. C'est la raison pour laquelle nous avons été clairs aujourd'hui pour que nous puissions joindre nos efforts au gouvernement de l'Union nationale. Et bien évidemment, nous avons demandé à ce que les processus d'inclusivité puissent être assurés et aussi que les frustrations de l'opposition soient prises en compte. Parce que vous savez que l'opposition aujourd'hui est martyrisée, nous sommes arrêtés, parfois nous sommes en exil et nous sommes en prison.
Les députés provinciaux de l'ensemble de la République réclament leurs arriérés de 10 mois ainsi que leurs indemnités de sortie. Ils sont au total 780 pour l'ensemble du pays, dont 28 pour la province de la Tshopo. La législature concernée est celle de 2019 à 2023. Selon leur porte-parole, les démarches entreprises jusque-là n'ont produit aucun résultat favorable. Il en appelle à l'intervention personnel du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, afin de résoudre cette situation. Jean-Pierre Litema Yeni, député honoraire de la Tshopo, exprime leur désarroi. Ses propos sont recueillis par Jacques Moukonkolé.
Lorsque quelqu'un preste comme député au niveau de la province, à la fin de sa carrière, il n'a pas gagné mandat, il est parti, il reste, mais il a droit aux indemnités de sortie. C'est ce qui a été fait en 2006, 2011, 2018. On avait tout payé pour nos prédécesseurs. Maintenant, il se pose un problème de 2019 à 2023. Quelqu'un qui a fini avec sa députation, il a droit ne fût-ce que d'avoir ces indemnités-là qui lui permettront de faire ne fût-ce qu'un champ ou quelque chose autre. Mais jusqu'à présent, c'est des ans, il n'y a rien qui s'exécute. Nous sommes là, on ne nous paye pas, il y a des amis qui sont malades, qui ont des problèmes, mais c'est difficile pour qu'ils puissent résoudre leurs problèmes parce qu'ils ne sont pas payés. Ils m'ont demandé de parler de ça, d'adresser un message au chef de l'État qui est le garant de la nation afin que ce dernier puisse s'impliquer lui-même. Parce que ce qui se passe maintenant, c'est très difficile pour nous. Quand vous posez les problèmes, il faut passer par des intermédiaires et les intermédiaires là demandent l'argent. Ça nous coûte extrêmement cher.
Dans le Haut-Katanga, la lutte contre la présence de mototaxis au centre-ville de Lubumbashi reprend après plusieurs semaines de relâchement. Tous les motocyclistes doivent respecter les limites fixées par l'autorité urbaine. Les motos des contrevenants sont saisies et placées à la fourrière. Justicia ASBL salue l'application de cette mesure, mais demande à ceux qui l'exécutent de le faire dans le strict respect de la loi. Timothée Mbuya, président des Justicia ASBL, s'exprime à ce sujet au micro de Jean Gandou.
Il y a quand même eu quelques cas de banditisme imputable aux motards, notamment le vol des sacs, le vol des téléphones, surtout à des heures tardives. Il vous souviendrait également que la ville de Lubumbashi était complètement submergée, la circulation de personnes et de leurs biens était devenue impraticable du fait justement de la trop grande affluence de motos dans le centre-ville. Et on a vu pendant une période que cette mesure a été très bonne dans la mesure où elle a contribué à désengorger la ville et la circulation était devenue un peu fluide et on a remarqué aussi qu'il y a eu moins d'accidents de circulation. Donc pour toutes ces raisons, nous, Justice ASBL, nous soutenons l'application de cette mesure, mais nous alertons que les services ne doivent pas utiliser ces prétextes-là pour arrêter abusivement dans les motards, pour rançonner leurs biens ou pour appliquer des amendes transactionnelles exorbitantes et en dehors du circuit légal.
Actualité internationale.
Au Soudan du Sud, cela fait 10 jours que le vice-président Riek Machar a été placé en résidence surveillée par le président Salva Kiir. Ce dernier l'accuse d'avoir orchestré des violences contre l'armée gouvernementale début mars dans le Haut-Nil. La détention de Riek Machar a marqué une escalade dramatique dans les tensions qui bouillonnent depuis des semaines, faisant craindre l'effondrement de l'accord de paix de 2018 et le retour de la guerre civile. Mais de nombreux appels au dialogue et à la libération de Riek Machar et des autres membres de l'opposition détenus n'ont eu aucun impact jusqu'ici. Et alors que plusieurs initiatives de médiation ont été lancées, l'accès à Riek Machar reste toujours interdit en mission de médiation dans la capitale sud-soudanaise depuis le mercredi 2 avril. Les sages de l'Union africaine n'ont pas été autorisés à rencontrer Riek Machar. Un refus que Djouba a justifié par le fait que le vice-président fait l'objet d'une enquête.
L'invité.
Madame Solange Riziki, initiatrice de l'orphelinat Nid d'espoir, s'est donnée pour mission d'encadrer les orphelins victimes des conflits armés en RDC. Sa structure, créée en 2020, héberge aujourd'hui une vingtaine d'enfants orphelins venus de l'est du pays. Dans cet entretien avec Plotin Yambenga, elle revient sur le parcours accompli en 4 ans ainsi que sur les difficultés rencontrées dans l'encadrement de ces enfants. Elle est notre invitée.
Bonjour madame.
Bonjour.
Et cet orphelinat existe depuis combien de temps?
C'est depuis 2020 que l'orphelinat existe. En juin 2020, les enfants sont arrivés des zones de conflit, c'est-à-dire de l'Est. Nous avons recueilli les enfants et c'est à partir de ça que nous sommes là en train d'éduquer, de prendre en charge les enfants.
De 2020 à 2025, pratiquement 5 ou 4 ans, combien d'enfants avez-vous déjà reçus?
Nous avons 24 enfants, d'où 10 garçons et 14 filles.
Et les plus âgés à quel âge?
Le plus âgé à 17 ans, par rapport au tout petit. Mais nous avons aussi des grands, c'est-à-dire un garçon et une fille qui ont déjà 20 ans.
Et tous sont scolarisés?
Tous sont scolarisés. Et les plus grands qui n'avaient jamais été à l'école ont commencé par faire le rattrapage. Et la grande fille, elle est en deuxième humanité en mécanique générale. Le grand garçon, il est en train de faire, il est dans le centre de rattrapage. Et le tout petit, la toute petite, elle est en maternelle. Elle a 4 ans.
Et quelles sont les grandes difficultés auxquelles vous êtes confrontés dans l'encadrement de ces enfants?
Nous avons beaucoup de difficultés, mais Dieu fait grâce. Ce qui me préoccupe pour le moment, c'est la santé des enfants. Oui, c'est sur le plan sanitaire, le coin où nous sommes, vous-même vous avez constaté que c'est vraiment un nouveau lotissement et il n'y a pas de centre médical, il n'y a pas d'hôpital. Et même toute la population qui vit ici en souffre. Donc le besoin urgent ici, c'est que l'orphelinat Nid d'espoir a besoin de mettre ici un centre hospitalier pour la santé de nos enfants et aussi de toute la communauté ici dans le quartier. À part le centre hospitalier, pourquoi pas ne pas mettre aussi une école des enfants parce que les enfants vont étudier un peu plus loin. Donc nous avons besoin nous avons notre terrain, mais nous avons besoin vraiment d'un appui pour pouvoir construire et le centre hospitalier et les écoles pour pouvoir aider pas seulement nos enfants et les enfants aussi du quartier. Parce que, au fait, à part nos enfants, les 24, vous avez constaté qu'il y a aussi d'autres enfants du quartier qui bénéficient de notre encadrement, même s'ils sont externes de l'orphelinat. Voilà un peu.
Et vous encadrez ces enfants qui arrivent à l'orphelinat tout jeunes, quand ils deviennent majeurs, qu'est-ce que vous prévoyez d'en faire?
Non, c'est comme ça que nous sommes en train de penser aussi à mettre une école professionnelle. Il y a les grands qui sont là, ils font deux qui font le métier. Ils font comment, le menuiserie. L'autre qui veut faire électricité. Ils doivent déjà partir de cet âge de 20 ans, se prendre en charge, être autonome. C'est comme ça qu'on les ramène dans des centres professionnels pour qu'ils apprennent un métier qui va les aider plus tard dans la vie. Quelles que soient les études qu'ils aimeraient faire, je préfère qu'ils passent par le centre professionnel pour apprendre un métier qui pourra l'aider plus tard.
Et quel message vous pouvez lancer aux autorités qui vous suivent à travers Radio Okapi?
Tout ce que je sais, c'est leur appui. On demande l'appui de nos autorités. Qu'ils viennent nous appuyer par rapport aux documents, par rapport à leur prise en charge. Il y a Fonareb, il y a le ministère des droits humains qui nous a parlé des réparations. Ces enfants ont besoin de bénéficier de ces réparations. Parce que ce sont des victimes des conflits armés et ils ont besoin vraiment de bénéficier de ces réparations. Ils ont besoin qu'on leur construise leurs fenêtres. Parce que nous avons un grand projet, c'est d'aider un plus grand nombre d'enfants, 300. Ces terrains, on peut y mettre aussi des écoles professionnelles, des hôpitaux et beaucoup d'autres choses. Parce qu'on a plus de... C'est le cri que je lance à nos autorités, au ministère des droits humains, au ministère des affaires sociales. Pas seulement nos enfants, mais partout en République démocratique du Congo, là où il y a les enfants orphelins, et surtout à l'est de la République démocratique du Congo, que l'autre gouvernement se penche sur cette question, parce que les enfants subissent des abus dans des zones de conflit.
Merci d'avoir répondu à nos questions. Madame.
Merci beaucoup.
Madame Solange Riziki, initiatrice de l'orphelinat Né d'Espoir, qui encadre les enfants orphelins victimes des conflits armés en RDC, répondait aux questions de Plotin Yambinga dans cet entretien. Nous arrivons à la fin de notre journal. Mise en onde par Jean-Claude Nsiala, supervision par Jacques-Yves Molima et présentation par Gisèle Cage. Merci de nous avoir accompagnés. Nous vous invitons à rester à l'écoute pour nos prochains programmes et à continuer de vous informer avec nous, notamment via nos réseaux sociaux, Facebook, X, TikTok et WhatsApp. Prenez soin de vous et à la prochaine occasion sur la même fréquence.